Le pétrole n'est pas un actif, c'est-à-dire qu'il est consommé. C'est un bien de consommation. Ces cycles, c'est sérieux, hein. C'est-à-dire que la valeur du pétrole par rapport à cette monnaie, eh ben, elle fait, de temps en temps, elle fait x4. Parce que l'or, c'est de l'ordre de 20% de volatilité. Le S&P, tu vois, le marché des actions américaines, c'est plutôt 15-16%. L'or, c'est déjà 20. Et le pétrole, c'est plutôt 25, hein. Donc, ouais, ça y va, c'est quoi. On voit que depuis, plus de 100 ans, le pétrole a monté de 8,7% par an. Alors qu'en moyenne, c'est zéro, hein, contre le cash, bah, il a monté de 8,7. Et quand ils sont insatisfaits,
avec les maçons.
Avec les maçons, il a baissé de 7 et quelques pourcents. Donc, il y a 16% de différence.
C'est pas haussier tant qu'il n'est pas au-dessus de 80 dollars.
Exactement. Ça veut dire que ce niveau de 80 dollars est finalement un niveau extraordinairement important.
Didier Hercé, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Grand Angle Éco.
Bonjour Richard.
Aujourd'hui, on a bien rigolé quand tu m'as dit ça, parce que tu as eu accès à un gros rapport issu de GAFCAL, hein, sur le pétrole et sur les quantités, les prix, l'offre, la demande, la météo, les pressions atmosphériques, tout, c'est 80 pages.
C'est ouais, ça, ouais, c'est
voilà,
ça, ouais.
Gros rapport. Et c'est vraiment. Donc c'est très intéressant parce que l'énergie, c'est le nerf de la guerre, comme on l'a dit, la croissance, c'est de l'énergie transformée, blablabla. Ok. Quelle est la conclusion de ce rapport?
Alors voilà, c'est ça qui a été drôle, parce que pour étudier ça, il faut bien 1h30, 2h. Et la conclusion, c'est, on sait rien.
C'est, le concentré de la connaissance.
Le concentré, l'essence de 2 heures à travailler, graphique par graphique.
C'est, 42.
C'est, en gros, la question, c'est où va aller le prix du pétrole? C'était pas sur les questions de demande, mais c'est où va aller le prix du pétrole? Et la question, c'est un énorme point d'interrogation. Alors ça, c'est à la fois très drôle.
Ça mérite bien une vidéo.
Mais c'est hyper drôle. Mais c'est
on n'en sait rien.
Non, mais on n'en sait rien du tout. Alors que c'est vraiment de l'expertise profonde, tu vois, économique.
Oui, c'est pas Martine, les prix du pétrole.
C'est pas Martine va à la plage. Bon. Il y a à peu près tous les facteurs possibles d'influence. Puis il y en a qui sont plus, d'autres qui sont moins.
Pondérés,
etc. Puis la conclusion, on sait rien, quoi. Mais c'est hyper drôle, ça. Ça, c'est hyper drôle. Et donc, en fait, tu regardes le prix du pétrole et puis, ok, alors je ne sais rien. Regardons déjà comment il se comporte depuis plus de 100 ans, quoi. Alors, on remonte à 1900, tu vois. Comment il se comporte? Alors, on avait déjà fait des vidéos pour montrer que le pétrole, c'est comme de l'or, un peu. C'est de l'énergie. Et que l'énergie et l'or, ça suit la capitalisation des intérêts de la monnaie. Donc, ça veut dire que c'est une monnaie. Voilà. Donc, on avait fait ces graphes, tu sais, qui montraient que, tu prends un dollar. Et puis avec ce dollar, tu as 3 possibilités, soit tu achètes de l'or, soit tu achètes du pétrole, soit tu le places en achetant des bons du trésor américain pendant 120 ans. Puis tu te rends compte que les 3, ils arrivent, ils passent de 1 à 100 tous les 3.
Tout pareil.
Alors évidemment, pas du tout pareil.
Avec la volatilité.
Avec une volatilité,
milieu,
avec des cycles et tout, mais en fait, donc c'est une manière.
C'est chaotique, ouais. Comme un village gaulois au
c'est
milieu.
Chaotique. Alors,
voilà.
alors justement, donc.
Mais à la fin, ils arrivent
au niveau.
Ils ont tous fait x100.
Ils ont tous fait x100, voilà. Donc voilà, très bien, super. Donc tu sais que finalement, ça change pas grand chose, ces 3 formes de monnaie. Ok, très bien. Donc tu dis, je vais prendre le prix du pétrole et puis je vais le diviser par cette monnaie qui est des dollars capitalisés. Comme ça arrive à la même valeur, c'est juste un oscillateur. Donc c'est ce qu'on appelle mean reverting. Donc ça veut dire qu'il revient à la moyenne. C'est un signal qui revient à la moyenne avec des cycles et on peut étudier les cycles. C'est intéressant. Voilà. Donc voilà. Alors, par contre, ces cycles, c'est sérieux, hein. C'est-à-dire que la valeur du pétrole par rapport à cette monnaie, elle fait, de temps en temps, elle fait x4. Ou bien elle est divisée par 4. Donc on est sur des ampleurs.
Ça tangue.
Donc si la moyenne c'est 1, ça fait plus 4 et tantôt ça tombe à 0,25. Quoi. Donc ça y va sec. Hein. Non. Donc le pétrole, la valeur. Et puis en plus c'est violent. Les mouvements sur le prix du pétrole sont violents.
Oui, on l'a vu il n'y a pas très longtemps l'année dernière. Ouais, ça peut.
C'est sérieux. C'est encore plus élevé que l'or. Hein, parce que l'or c'est de l'ordre de 20% de volatilité. Le S&P, tu vois, le marché des actions américaines c'est plutôt 15-16%. L'or c'est déjà 20. Et le pétrole c'est plutôt 25. Hein, donc ça y va sec. Quoi.
C'est pas le Bitcoin, mais...
C'est pas le Bitcoin, non.
Mais
c'est
quand même.
Bitcoin, mais c'est, voilà, c'est un quart du Bitcoin, c'est beaucoup. Donc, voilà. Et donc, aucun moyen de savoir ces mouvements. Alors, pourquoi ce serait très important de savoir ces mouvements? C'est parce que quand on réfléchit à toutes ces classes d'actifs, etc., on essaye de trouver des liens de causalité. On sait très bien qu'on a des facteurs économiques qui influencent, par exemple, les actions dans tel domaine ou les obligations dans tel autre ou la valeur de l'or. Donc, on trouve des variables externes qui arrivent à nous faire comprendre la situation qui est plutôt favorable à une classe d'actifs ou à une autre. Mais le pétrole, qui est pourtant probablement, possiblement, la variable centrale, le prix de l'énergie primaire, dans toute la valorisation des actifs financiers. Alors, une action ou une obligation, ça ne vaut pas du tout la même chose si le pétrole est à 100 dollars ou à 300 dollars. Mais pas du tout la même chose.
Parce que le régime de croissance économique n'est pas du tout
le même. Ne sera pas le même, parce que ça va influencer tout le régime de croissance. Ça va influencer le régime de croissance économique, ça va donc influencer l'inflation. L'inflation va influencer la politique monétaire, et ça va influencer la valeur des obligations longues. Donc en fait, la valeur de l'énergie primaire est absolument centrale dans tout cet édifice qui se répond un peu, entre les monnaies, l'activité...
D'où l'idée de faire un gros rapport pour connaître son prix.
Et absolument. Et d'où, voilà, la conclusion, c'est qu'on ne sait pas.
Mais c'est quoi le problème? C'est un peu comme le billard où globalement on tape une boule et puis le premier mouvement, le deuxième, on voit bien, mais alors le quatrième, bon, alors, pff, on ne sait plus ce que ça tape et dans quel sens ça va, quoi.
Je pense que...
C'est quand t'éclates au milieu du billard.
Oui, bien sûr. Pourquoi est-ce que c'est si incertain et c'est si volatile? C'est parce que l'or n'est pas vraiment un actif.
Le pétrole.
Le pétrole n'est pas un actif. C'est-à-dire qu'il est consommé. C'est un bien de consommation. Et par conséquent, c'est difficile de valoriser, puisqu'il dépend à tout instant d'un équilibre entre offre et demande. Et cet équilibre entre l'offre et la demande au niveau mondial est incroyablement difficile à appréhender. Donc si tout d'un coup, il y a une demande de pétrole, pour quelque raison que ce soit, qui est supérieure à l'offre de pétrole à un moment donné, et c'est crucial d'avoir l'énergie primaire quand on veut faire son développement économique, bah, t'as une envolée du pétrole complètement dingue. Et puis si tout d'un coup, par un effet quel qu'il soit, t'as ralentissement de ça, bah, il serait effondré. Parce que finalement, il n'a pas, c'est pas parce qu'il a, il a une valeur intrinsèque gigantesque, le pétrole. Mais c'est comme l'air. L'air, ça a une valeur intrinsèque énorme, mais ça vaut
rien.
Oui,
quand on en manque, on trouve ça très
dommage. Quand on en manque, on serait prêt à payer cher. Hein. Mais par contre, ouais. si on en a abondamment, ça vaut rien. Donc c'est exactement ça, c'est amusant. Hein. Bon. Et donc, je me suis dit, comment m'en sortir de cette histoire? Et généralement, quand je ne trouve pas les variables externes qui peuvent contrôler un système financier ou un actif financier, je vais chercher en fait les variables internes. Et les variables internes, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la finance comportementale. Et oui, c'est-à-dire, qu'est-ce que le marché ou le marché du pétrole, en termes de prix, pense de lui-même? Je ne vais pas regarder ce que fait l'économie, je ne vais pas regarder ce que fait la croissance ou l'inflation. Qu'est-ce qu'il pense de lui-même? Et là... Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais c'était il y a quelques années, j'avais abordé ça par un modèle que j'avais appelé la stratégie du maçon.
Ah si, ça va bien, on l'a sur Nestor.
Vous l'avez sur Nestor, vous l'avez partout, la stratégie du maçon, absolument. J'ai appliqué dans pas mal de choses, j'ai appliqué au Bitcoin, j'ai appliqué au crypto, j'ai appliqué à plein de choses. Et là, je me suis dit, tiens, regardons la stratégie du maçon, la fameuse stratégie du maçon sur le pétrole. Et la stratégie du maçon, pour donner un souvenir, elle est fondée sur l'idée que... On a une perception d'un prix à un moment du marché qui est subjective. C'est-à-dire que il dépend en fait d'une compétition entre, pour les investisseurs, entre une satisfaction et une insatisfaction. Et ça dépend de la trajectoire de prix. Donc l'idée, l'exemple qu'on donnait à l'époque, c'était celui qui a investi à 100 dollars il y a un an et maintenant son actif vaut 120. Ça a monté de 20%, donc on pourrait dire il est très satisfait. Et dans la stratégie du maçon, je disais non, c'est pas certain du tout qu'il soit satisfait. Et pourquoi? Parce que si le prix n'est pas passé de 100 à 120 directement, mais il a commencé par passer à 80, il est remonté à 200 pour retomber à 120, alors en fait on a un mixed feeling. Parce qu'on est très content de ne pas avoir vendu à 80.
On est furieux,
on est chaud, donc on est remonté de 120 à 80, donc ça c'est notre satisfaction. 120 divisé par 80, c'est une satisfaction.
J'ai sauvé les meubles.
Sauver les meubles, puis surtout, voilà ça. Puis voilà.
J'ai même gagné un peu d'argent.
Et on a même gagné un petit peu d'argent, tant mieux, mais enfin la satisfaction c'est 120 sur 80, parce que 80 c'était l'horreur qu'on aurait pu faire. Mais par contre il y a une frustration, c'est de ne pas avoir vendu à 200. Eh oui, donc on a une frustration.
Qu'est-ce que j'étais con.
On a une frustration qui est 200 sur 120. Ouais. Et dommage. Et ça, comme je pense que la mémoire de l'homme, cette étude, toute cette analyse du maçon venait d'études psychologiques de Handel de Tulving, qui était un psychologue, un neurophysicien, un neuroscientifique canadien. Avec le patient cassé. C'est-à-dire qu'il s'était rendu compte que ce patient, il n'avait plus aucune mémoire émotionnelle et que n'ayant plus des mémoires émotionnelles, il n'arrivait plus à se projeter dans l'avenir. Et donc la conclusion de cette étude, c'était de se dire, mais finalement, la mémoire de l'homme, elle est cristalliser sur les points forts émotionnels, et simplement c'est cette cristallisation de l'émotion sur le passé qui conduit à des actions sur le futur. Donc, c'est ce que montrait le passant, le Ken Cochrane, le passant cassé, qui n'avait plus de mémoire de lui-même dans sa vie.
Oui, c'est cassé comme Calvin Klein.
Il s'appelait Ken Cochrane, ouais.
Ken Cochrane.
Et alors, Et donc, quand on appliquait ça à la finance, on disait, bon, bah, quels sont les points émotionnels de l'année écoulée? Et les points émotionnels, c'est évidemment le point bas du marché, le point haut du marché. Donc, pour savoir quel est le... Donc, il y a un point haut, un point bas, il y a un point aujourd'hui. Il y en a, il y a une satisfaction qui est 120 sur 80 et il y a une insatisfaction qui est 200 sur 120. J'aurais dû vendre à 200, ça vaut que 120. Comme 120 sur 80 est inférieur à 200 sur 120, eh ben, ma conclusion est que l'investisseur qui a investi il y a un an à 100, ça vaut 120, il est insatisfait. Il est insatisfait parce qu'il est tellement furieux de ne pas avoir vendu à 200 que même s'il a gagné un peu, eh ben, son émotion sera négative. Et donc, c'est ça, en fait, le principe de ces maçons.
On mettra la vidéo.
Et donc, je l'ai appliqué au marché du pétrole en me disant, finalement, le marché du pétrole, il est extrêmement spéculatif. Il a des volatilités de 25%. Personne ne sait trop, en fait, pourquoi il faut acheter, puisque tu as un rapport de 80 pages, tu n'arrives pas à conclure.
Sachant que le rapport de 80 pages, c'est basé sur le fait que Gafcal connaît énormément de gens oui, avec ses clients.
Bien sûr.
Et en fait, c'est la synthèse d'énormément
oui,
d'avis,
pas de la,
d'infos.
C'est, bien sûr,
pas juste.
Non,
un,
c'est de la consolidation.
C'est pas Cédric ou Charles ou je sais pas qui a dit allez, hop, je m'en mets 80 pages.
Non, c'est des consolidations de tout ce qu'on a pu trouver.
C'est une méta-étude.
C'est une méta-étude, voilà, c'est ça. C'est une méta-étude.
Entre guillemets.
Non, c'est ça. C'est exactement ça. Et donc, finalement, je me suis dit, bon, ben, on se rend compte que même avec des méta-études hyper bien faites, on n'arrive pas à savoir. Il y a beaucoup de volatilité, c'est un marché très spéculatif. Bah, tiens, ça ressemble peut-être à de la finance comportementale. Peut-être que la finance comportementale pourrait nous donner une indication. Et là, alors là, surprise totale, ça sort incroyablement bien. C'est-à-dire que quand, sur cette méthode de calcul extrêmement simple, j'arrive à conclure que le marché du pétrole est satisfait, ça veut dire qu'ils pensent que ça va monter pour ceux qui achètent du pétrole, hein, pas pour ceux qui l'a... pour ceux qui sont détenteurs de pétrole. Allez, va, bon. Eh ben, on voit que depuis plus de 100 ans, le pétrole a monté de 8,7% par an. Alors qu'en moyenne, c'est zéro. Hein, contre le cash, ben, il a monté de 8,7%. Et quand ils sont insatisfaits, ben,
avec les maçons,
il a baissé de 7 et quelques pourcents. Donc, il y a 16% de différence d'expected return entre une situation et l'autre. Donc, ma conclusion, c'est que finalement, eh ben, peut-être que dans cette espèce de brouillard gigantesque qui est la valorisation d'un des paramètres les plus importants de l'économie, ben, de temps en temps, aller regarder la psychologie, elle peut au moins nous donner un cadre de confiance.
Ah ben et alors aujourd'hui, ma femme, ça.
Pardon?
Elle est psychologue.
Oui. Non. Bah oui, ça va faire plaisir.
Et tu serais une bonne financière.
Et voilà. Et alors, j'ai regardé aujourd'hui, et c'est assez amusant parce qu'on avait fait une vidéo l'été dernier, je crois, à Biarritz ou je sais pas quoi. On était déjà en train de parler du pétrole.
Ouais.
Et tu m'avais demandé des niveaux importants, ouais, etc., qui n'étaient absolument pas sur cette méthode-là. Hein. Et j'avais conclu, tu sais, que le pétrole, attention, il fallait faire attention au-dessus de $80. Donc là, j'ai fait les calculs maintenant avec cette technique qui est complètement formalisée. Et on est actuellement dans une période dépressive du pétrole, c'est-à-dire d'insatisfaction. Ça veut dire qu'il est sur la courbe qui descend, là. Il n'est pas en train de monter. Et on est sur les maçons insatisfaits. Il va se casser la gueule, le pétrole, en valeur relative par rapport au cash. Hein. Et alors je me dis, mais à quel moment il va basculer? À quel niveau il va basculer? Dans un mois, deux mois, trois mois, six mois? Et ce niveau, il est entre, encore une fois, $80 et $81.
C'est étroit, ça, 80-81.
80-81, c'est extrêmement étroit. C'est-à-dire que sur le mois suivant, c'est 80.5, sur le mois suivant, tu vois. Mais tout ça oscille autour de cette espèce de gros $80. On peut retenir à peu près $80 comme référence à $1 près.
C'est pas aussi tant qu'il n'est pas au-dessus de $80.
Exactement.
Quoi.
Ça veut dire que ce niveau de $80 est finalement un niveau extraordinairement important sur les marchés, sur le pétrole et sur tous les marchés. Et c'est amusant parce que ça fait. Depuis l'été, ça fait 6 mois que ce niveau est là. Comme il y a une espèce de flash là qui est en train de dire attention, attention à $80, et que le pétrole, bah, il a fait 65, 75, 79, 70, 75. Il est toujours en dessous ce truc là. Mmh. Voilà. Mais la recommandation que je ferai à ceux qui s'intéressent au marché du pétrole, des commodities, des matières premières, etc., c'est que voilà, pour moi, le niveau pivot, il est là.
Et psychologie des marchés avant d'utiliser les fondamentaux, parce que les fondamentaux n'inhibitent rien.
Bah, c'est-à-dire que quand on n'a rien, on se tourne vers autre chose et que ce truc-là marche très très bien depuis très très longtemps. Donc, il a vraiment beaucoup de sérieux statistiques.
Voilà. Bah, merci beaucoup,
je
Didier.
Je t'en prie. Bonne journée.